Chapitre 3. Malgré la douceur de ces hivers, la Provence a aussi ses jours de mauvais temps, de pluie, de neige et de vent, où le mistral brise les vitres avec les cailloux qu'il arrache aux collines dénudées et transporte au loin. Bien que peu sensible à ces intempéries, Roger ne pouvait donc pas toujours sortir. Alors il restait à la maison, employant son temps comme il pouvait, tantôt visitant en détail quelques coins du château qu'il ne connaissait pas encore, tantôt écrivant des lettres, tantôt rêvant tout simplement devant le feu, mais toujours refusant obstinément les invitations de Crozat de travailler au catalogue de la bibliothèque, malgré tous les plaisirs que devait offrir cette occupation. Un jour d'hiver qu'il était ainsi demeuré au château, il fit une trouvaille dans un meuble de sa chambre qui amena une révolution dans sa vie. Il avait écrit à Harly, et sa lettre achevée, il était resté assis devant le bureau sur lequel il l'avait écrite, réfléchissant, rêvant, s'amusant machinalement à ouvrir et à refermer quelques-uns des nombreux tiroirs de ce vieux meuble de fabrique milanaise qui, pour la richesse de l'exécution et la complication de ses dispositions intérieures, était une merveille. Tout à coup, sous sa main, et sans qu'il sût trop comment la chose s'était faite, deux petits volets se séparèrent par le milieu et s'ouvrirent, découvrant une sorte de tabernacle, si bien caché qu'il n'avait jamais soupçonné son existence. Dans ce tabernacle, garni de velours, se trouvaient quatre liasses de lettres attachées avec un fil d'or, un ruban décoloré, quelques fleurs desséchées, et une miniature qu'il reconnut tout de suite pour être le portrait de sa grand-mère maternelle, la comtesse de Condrieu-Revel, la femme de son grand-père, de son tuteur détesté, le comte de Condrieu-Revel. Il n'avait jamais connu cette grand-mère, morte jeune bien avant qu'il fût au monde, mais il avait été élevé devant son portrait en pied, et la ressemblance entre ce portrait et la miniature était telle que l'hésitation n'était pas possible. Comment cette miniature se trouvait-elle dans un meuble ayant appartenu au marquis de Varanges et n'ayant pas été ouvert très probablement depuis la mort de celui-ci? Roger resta un moment à réfléchir, puis prenant la liasse de lettres, il dénoua le fil qui les réunissait et se mit à lire celle qui se trouvait la première. « Pourquoi ai-je vécu avant de vous connaître, cher Gaétan? Que d'années vides, que de temps perdu, que de jours mal employés. Maintenant, je vais à une autre existence. Votre amour me tire de moi-même. Je suis prise dans un tourbillon qui m'enlève et m'entraîne. Ce sont des joies célestes, celles que vous me faites goûter. Si parfois j'avais pressenti ces joies, si je les avais appelées de toutes les forces de mon être, je n'avais pas pu les rêver si délicieuses, si complètes. C'est le ciel que vous m'ouvrez, et jamais je n'avais pu espérer, jamais je n'avais imaginé que le ciel était fait pour moi. C'en est donc fini à jamais de ma solitude et de mon abandon. Je suis aimé, j'aime. Ma vie entière va tenir dans ces deux mots. Je n'aurai plus rien à désirer, je connais le bonheur. Mon cœur déborde de reconnaissance envers vous qui êtes venu à moi et aussi envers Dieu qui nous a permis de nous aimer. Comment ai-je eu la faiblesse de craindre des troubles et des remords qui me feraient expier la faute de me livrer à votre tendresse? Je ne rencontre en moi, au contraire, qu'apaisement, sérénité et confiance. Il me semble vivre dans un autre monde. C'est un autre air que je respire. Ce sont des sensations nouvelles, imprévues, bouleversantes, enivrantes, qui m'animent et m'émeuvent. Oh, c'est bien cela, l'amour, l'amour irrésistible qui unit deux âmes et les enchaîne des plus doux liens, l'amour qui sait renverser tous les obstacles, qui compte pour rien les plus dangereux, comme ceux qui sont infranchissables, pour aller droit vers l'aimant qui l'attire. Le devoir, la raison, la famille ne sont plus que des mots quand les bras sont impatients de s'étreindre. Et jusqu'au jour où je vous ai rencontré, où vos yeux m'ont parlé, où vos paroles brûlantes ont frappé mon oreille pour me toucher si délicieusement le cœur, j'ai pu rester ignorante de ces belles vérités. J'ai pu croire que mon chemin était tracé de telle sorte que jamais la main d'un homme ne prendrait la mienne avec une caresse, que jamais des lèvres chéries ne chercheraient les miennes, et que mon existence se poursuivrait à jamais, jusqu'à la fin, morne et solitaire. Je ne tentais même pas de me soustraire au sort terrible qui m'était fait, que je m'étais fait en acceptant pour mari un homme que je méprisais. Je courbais les épaules en sacrifié qui n'a plus l'espoir de se relever jamais, et je subissais sans révolte, quoique sans résignation, la honte de porter le nom de cet homme qui me fait horreur, de partager son existence. Je ne cherchais rien, je n'entendais rien, ma vie était finie sans avoir jamais commencé. Mais vous m'êtes apparu. Et voilà que tout à coup s'est révélé en moi quelque chose d'inattendu, d'inespéré, de foudroyant, qu'aucun mot ne peut expliquer, que rien ne peut rendre. Je me suis mise à espérer, moi qui depuis si longtemps n'espérais plus. J'ai eu comme un épanouissement, moi qui étais étouffée sous la contrainte, et sans savoir pourquoi, sans me rendre compte de ce que je ressentais, j'ai éprouvé un enivrement qui me transportait hors de l'enfer stupéfiant dans lequel jusqu'alors j'avais vécu, étouffé ou torturé. Je n'ai pas analysé mes impressions, je ne les ai pas pesées, mesurées. Il m'a été impossible de les étudier à loisir. Je ne me suis rien expliqué, j'ai su seulement, j'ai vu, j'ai senti que j'étais prise d'un grand émoi quand j'avais l'espérance de nous rencontrer. Quel trouble, quelle angoisse! Aussi, lorsque nous étions ensemble et que vos yeux me cherchaient, je devenais mortellement craintive à la pensée d'être regardée par vous, d'être jugée par vous, et de n'être pas trouvée digne de vous plaire. Car instinctivement, inconsciemment, malgré moi, je voulais vous plaire, je voulais votre amour. Et pourtant, quand j'ai compris quel sentiment m'envahissait, quand j'ai compris que vous aussi vous m'aimiez, j'ai essayé de me défendre. Vos regards, que d'abord j'avais cherchés parce que je puisais en eux une consolation et des jouissances indéfinissables, je les ai redoutés, j'ai voulu les fuir. Mais déjà, il n'était plus temps de me défendre contre la passion qui m'avait envahi et qui m'entraînait. Comme je me suis mal défendue, j'ai été sans force contre moi-même. Chaque jour, mon cœur s'est donné un peu mieux. Chaque jour, un plus fiévreux, un plus dévorant besoin de vous voir m'a gagné, et peu à peu, une révolution s'est faite en mon âme. Moi, la malheureuse, meurtrie et désespérée, je me suis souvenue que j'étais jeune, ma conscience m'a dit que j'avais le droit d'aimer, je me suis sentie libre. Rien de ce qui n'était pas vous n'a existé pour moi, je n'ai plus vu que ce qui vous touchait. C'est ainsi que je me suis donné, entraîné irrésistiblement, et que je me suis laissé conduire par vous. Vous m'avez prise par la main, et pas à pas, vous m'avez introduite dans ce monde merveilleux de l'amour. Quelle gratitude pourra vous payer jamais les sensations exquises que vous m'avez fait ressentir. Je m'abandonnais, me sentant à vous pour toujours, et je frémissais d'une folle volupté à m'entendre dire que j'étais adorée. Il me venait des étonnements béats de votre tendresse que je goûtais avec délice, tout en me demandant encore un peu craintivement si un homme pouvait être réellement et surtout constamment aussi bon, aussi doux, aussi tendre, aussi noble, aussi admirable que vous vous montriez avec moi. Ne changeriez-vous pas un jour pour parler en maître ? Pardonnez-moi ce doute, que je confesse parce que je ne me le pardonne pas moi-même, en voyant que vous êtes devenu meilleur encore et plus parfait. Ô mon sauveur, mon amour ! Maintenant, vous savez que non seulement je suis à vous sans peur, mais encore qu'à chacune de nos entrevues, je vous découvre un mérite nouveau qui m'exalte et me transporte. Maintenant, je suis sûr de vous, sûr du présent, sûr de l'avenir, et je n'ai plus à redouter qu'un chagrin ou une déception me ramène durement à la réalité. Maintenant, je n'ai à attendre de vous que des joies plus profondes encore, et, si cela est possible, qu'un bonheur plus complet. Maintenant, notre absence même et notre séparation me sont adoucies, si cruelles qu'elles soient, je peux les remplir de satisfactions pénétrantes. Quand vous vous éloignez de moi, je sais que je ne vais pas me dégager de l'ivresse que votre présence m'a causée, et je sais aussi que je vais retrouver en moi votre image animée, vos paroles toutes vibrantes, et que, toujours ému de l'espérance de vous revoir, je garderai un trouble indicible, ineffable, qui occupera constamment mon cœur, ma tête et mon esprit, sans laisser place à une pensée qui ne soit vous ou notre amour. À bientôt, n'est-ce pas ? Éléonore. Il avait lu cette longue lettre, sans s'arrêter et se reprendre, entraîné par la passion dont elle débordait. Pas un fait, pas un mot précis, pas un incident particulier, rien qu'un hymne d'amour, et cependant, on voyait, on sentait comment cette passion était née, s'était développée, s'était épanouie. Celui à qui elle était adressée, le marquis de Varages. Celle qu'il avait écrite, sa grand-mère, la comtesse de Condrieu-Revel. Le portrait qui l'accompagnait, le nom d'Éléonore dont elle était signée, ne laissait pas place au doute ou à l'hésitation là-dessus. Moins exalté, moins sincère, moins pur, il ne l'eût pas lu jusqu'au bout, cette lettre. Il se fut arrêté au moment même où l'idée s'était présentée à son esprit que celle qui parlait ainsi était la mère de sa mère. Un sentiment de pudeur et de respect lui eût fermé les yeux. Mais ce n'était point l'histoire d'une amourette qu'il venait de lire. Ce qu'il venait d'entendre, c'était le cri puissant d'une grande passion, assez haute, assez noble, pour qu'il n'y eût point d'indiscrétion ou curiosité futile à vouloir la connaître. Assurément, celle qui avait écrit ces lettres ne pouvait pas perdre à ce qu'on les lut. Et puis, d'autre part, il pressentait vaguement qu'il avait intérêt, lui, un intérêt capital à les lire. Vivement, il prit celle qui venait en second. « C'est vrai, je ne me laissais pas tromper par l'espérance. Cela est certain, je suis enceinte et je meurs de joie. Ne crois pas que je m'en rapporte à mes désirs. J'ai voulu, avant de t'écrire, consulter le médecin. Je lui ai dit ce que j'éprouvais. Son autorité, dont tu ne douteras pas, a confirmé ce que je pensais. Je suis enceinte. » Je croyais ne pouvoir jamais être plus complètement heureuse que je ne le suis depuis que tu m'aimes. Et voilà maintenant que ce nouveau bonheur, qui surpasse peut-être celui que je reçois de toi depuis quelques mois, s'ajoute à ma félicité. Avoir un enfant de toi, sens-tu tout ce qu'il y a dans une pareille espérance? Un enfant que je chérirai non seulement parce qu'il sera le mien, mais surtout parce qu'il sera le tien. Le tien, c'est-à-dire qu'il aura ton âme, ta tendresse, ta droiture, ta noblesse, ton esprit, ta grâce, tes perfections, et qu'en lui je retrouverai ton visage et ton cœur, ta bonté et ton sourire. Comprends-tu, cher bien-aimé, quels seront mes ravissements et ma fierté lorsque notre enfant, en grandissant, me rappellera son père adoré? Me vois-tu épiant curieusement, jalousement ses gestes, écoutant sa voix pour retrouver la douce musique de la tienne? Je veux une fille, et je le sens, ce sera une fille. Il ne faut pas que l'enfant de notre amour garde le nom détesté sous lequel il naîtra. Ma fille sera douce et charmante, en tout semblable à toi. Ses cheveux seront bruns et bouclés comme les tiens. Ses yeux prendront aux tiens leur couleur sombre, leur feu ou leur belle langueur voilée. Elle sera grande et élégante. Elle possédera l'admirable grâce qui n'appartient qu'à toi et à ta suprême noblesse. Je l'élèverai pour toi. Ton intelligence et ton savoir me guideront. Elle sera ce que tu voudras qu'elle soit. Mes idées ne compteront pas, ce seront les tiennes que je suivrai, et elle grandira dans tes principes. Ce que tu respectes, elle le respectera. Ce que tu détestes ou méprises, elle le méprisera et le détestera. Il faut que tu sois son parrain, il faut que tu lui donnes ton nom. Je lui apprendrai à t'adorer et à te vénérer. Elle deviendra pour toi-même une enfant soumise et aimante. Je lui ferai dire aussi tendrement « mon parrain » qu'elle aurait dit « papa ». Tu me seras un modèle qu'à chaque instant, que chaque jour je lui mettrai devant les yeux. Dès qu'elle pourra m'entendre et comprendre quelque chose, je lui ferai savoir ce que tu vaux et lui apprendrai à apprécier tes hautes qualités. Je veux qu'elle t'admire, je veux qu'elle te trouve beau, je veux qu'elle s'habitue à voir dans le marquis de Varanges le type du gentilhomme et du grand seigneur accompli. À toute heure, je l'entretiendrai, je la bercerai de tes mérites et je lui parlerai de toi sans crainte avec l'amour qui m'anime. Nous combinerons tous deux, si tu le veux bien, ce que je devrais lui dire pour son éducation et comment je devrais le dire. Tu me souffleras. Je n'aurai qu'à répéter ce que tu auras voulu que je répète, et ainsi ce sera toi qui parleras à ta fille, toi qui provoqueras l'éveil de son intelligence que tu développeras à ton gré. Chaque soir j'écrirai, sans rien oublier, sans rien changer, sans négliger rien, ce qu'elle aura dit, fait ou appris, ses rires ou ses larmes, ses plaisirs ou ses chagrins, et de cette façon tu apprendras à la connaître comme si du matin au soir tu ne la quittais pas. Si tu savais que de pensées, que de projets se heurtent dans ma tête, que je voudrais t'expliquer, mais qui m'emportent sans que je puisse les mettre en ordre. J'ai l'esprit perdu, je te raconte tout sans suite, tremblante d'émotion, en m'imaginant tant de joie, folle de fierté, en sentant en moi cette maternité qui va si bien remplir ma vie. Tu ne seras plus jamais loin de moi. Un petit être à toi respirera sur mon sein, plus tard vivra à mes côtés, dans mes bras, et je vais prendre de lui, de sa présence, de ses caresses, une assurance de bonheur éternel. Dieu ne peut plus jamais nous séparer, puisqu'un enfant nous sera né, et que cet enfant aura besoin de notre union et de notre amour pour s'élever et grandir, puisqu'il lui faudra notre appui à tous deux et nos soins. Ah, que je suis heureuse et que je suis fière, je ne le dirai jamais, je ne le crierai jamais assez haut. Mon bonheur est légitime, c'est un bonheur qui m'était dû et je ne me sens pas coupable de m'en enivrer. On m'a pris mon fils. Si Roger avait pu avoir des doutes sur l'enfant dont sa grand-mère parlait dans cette lettre, ce mot les aurait détruits. Ce fils dont elle parlait, c'était son premier enfant, celui qui, plus tard, était devenu le père de Ludovic de Condrieu et de Christine. Tandis que l'enfant dont elle se disait enceinte, c'était la fille qu'elle avait eue ensuite, c'est-à-dire celle qui était devenue duchesse de Naurouze, sa mère. Il continua. « On m'a pris mon fils, on m'a brisé ma jeunesse, on m'a laissé sans foi. Désespéré, j'avais le droit, après mes contraintes et mes douleurs passées, de me reprendre pour me réfugier près de qui j'aime et près de qui m'aime. Ma grossesse est la consécration, la sanctification de notre amour. Elle me ferait tout braver et je sens bien que je n'aurai plus maintenant de ces rougeurs et de ces embarras subis qui, en ces derniers temps, m'ont si fort tourmenté. Maintenant, lorsque devant moi on prononce ton nom, je lève la tête. Tu es mon époux. Et si un sentiment de pudeur ne me retenait pas, je crierais tout haut et à tous, « Je l'aime !» Je ne peux plus, je ne dois plus être, et je te promets que je ne serai plus la pauvre créature que j'étais, pliée sous une volonté de fer, peureuse et timide, car notre enfant en souffrirait et ma faiblesse retomberait sur lui. Il ne faut pas qu'on me prenne celui-là comme on m'a pris l'autre pour ne lui donner que des leçons d'égoïsme et de dureté, pour ne lui enseigner que la religion de l'ambition et de l'intérêt. Il faut au contraire qu'il vive sous la protection de sa mère. Ce que je n'ai pas pu faire pour moi, je te jure que je l'obtiendrai pour lui, sois sans crainte. Tant que je serai vivante, sois assurée qu'il sera bien défendu. Au milieu de mon bonheur, je ne me laisse pas emporter. Je réfléchis et raisonne. J'admets que celui que le monde considérera comme son père peut vouloir l'accaparer, tenter de se faire aimer de lui, lui donner des baisers, lui demander des caresses. Oui, j'admets cela sans le croire. Mais si cela se présentait, sache que je serai là et que je saurai bien empêcher notre enfant de lui tendre les bras, dussé-je tout lui dire. Mais c'est là une crainte vaine dont Dieu m'épargnera la réalisation. Il n'est pas dans la nature de celui que je redoute de chercher à se faire aimer. D'ailleurs, je ne veux pas en un pareil jour et quand je suis si heureuse, me laisser aller à de tristes pensées. Si le malheur vous accable et vous laisse sans énergie, sans courage et sans ressources, Si pour soi, on accepte lâchement le martyr, l'énergie vous revient dans le bonheur et l'on trouve du courage, on trouve de l'esprit lorsqu'il s'agit de ceux qui vous tiennent le cœur. Pour notre enfant et pour toi, pour nous deux, que ne ferais-je pas dans le danger ? Pour toi, je donnerais ma vie éternelle si c'était à ce prix seulement que je pouvais conserver ton amour. Pour notre enfant, mon repos, mon honneur, mon sang. Quand vais-je te voir ? Car tu sens bien qu'il faut que je te voie. Je ne sais pas t'attendre en un pareil moment. Viens donc vite, viens tout de suite, viens lire dans mes yeux ma joie débordante. Viens, que je lise la tienne. Il faut que je te serre dans mes bras, il faut que je te remercie, il faut que je me mette à genoux devant toi comme devant mon Dieu, que je m'imprègne de toi, que tes traits se gravent en moi pour que l'enfant que je porte soit créé à l'image de celui que j'adore. Éléonore.